Se réveillant d'un long sommeil, Chang Beiyei vit soudain en regardant l'heure qu'il avait dormi pendant 15 heures. C'était peut-être la plus longue nuit qu'il avait faite de sa vie en dehors des 2 siècles passés en hibernation. Il avait l'impression de renaître. Il sonda attentivement son âme et comprit d'où lui venait ce sentiment. Il était à présent seul. Avant, même en flottant dans le vide infini de l'espace, il n'avait jamais connu cette sensation de solitude. Les yeux de son père le fixaient sans cesse, avec la même permanence que la lumière du soleil pendant le jour et celle des étoiles pendant la nuit. Il faisait partie de son monde. Mais à présent, le regard de son père avait disparu. « C'est l'heure », se dit Chang Beiyei. Il ajusta son uniforme. Ayant dormi en apesanteur, ni ses vêtements ni ses cheveux n'étaient en désordre. Il jeta un dernier regard à cette cabine sphérique où il avait passé plus d'un mois, puis il ouvrit la porte et s'envola en dehors, prêt à braver la fureur de l'équipage, à soutenir ses regards de condamnation et de mépris, à affronter son dernier jugement, et enfin à faire face à sa vie. En militaire consciencieux, il s'était efforcé de faire son devoir, et peu importait si celle-ci devait se terminer bientôt, il partirait en paix. Le couloir était vide. Chang Beiyei avança lentement, passant devant des cabines aux portes ouvertes. Elles présentaient toutes le même espace sphérique dont les cloisons blanches comme la neige avaient l'air d'yeux sans pupille. L'environnement était pur, il ne voyait pas la moindre fenêtre activée. Le système d'information du vaisseau avait probablement été reformaté. Chang Beiyei se souvint d'un film qu'il avait vu il y avait bien longtemps, dans lequel les personnages se réveillaient dans un monde terrifiant, composé de petites chambres cubiques identiques, chacune équipée de mécanismes mortels. Ils passaient d'une chambre à l'autre, sans fin. Il s'étonna soudain de laisser ainsi libre cours à ses pensées. Autrefois c'était un luxe, mais aujourd'hui, la mission qu'il s'était efforcé de remplir pendant 2 siècles touchait à sa fin, et ses pensées pouvaient vagabonder librement. Il prit un virage et se retrouva au milieu d'un couloir encore plus long mais toujours aussi vide. Les cloisons émettaient toujours la même lumière blanche et douce qui lui faisait perdre tout sentiment de relief. Le monde lui parut simple. Encore une fois, des 2 côtés du couloir, les portes des cabines étaient ouvertes et on voyait à l'intérieur le même espace sphérique immaculé. Le sélection naturelle paraissait avoir été abandonné. Aux yeux de Chang Beiyei, l'immense vaisseau était comparable à un prodigieux symbole condensant l'infinitude. Il était la métaphore d'une loi dissimulée derrière la réalité visible. Il avait l'illusion que ces espaces blancs et sphériques identiques s'étendaient sans interruption dans l'espace, répétés à l'infini dans l'univers. À cet instant, une idée émergea brusquement dans son cerveau. L'holographie. Il était possible de contrôler le sélection naturel depuis n'importe quelle cabine, ce qui signifiait que d'un simple point de vue informatique, chaque cabine était la totalité du sélection naturel. Le vaisseau était holographique. Ce vaisseau était donc une graine de métal ayant pour cargaison la totalité des informations de la civilisation humaine. Si la graine germait dans un coin de l'univers, elle pourrait faire pousser une civilisation complète. La partie contenait le tout. La civilisation humaine était donc peut-être elle aussi holographique. Chang Beiyei avait échoué. Il n'avait pas pu disséminer ses graines. Certes, il le regrettait, mais il n'était pas triste, et pas seulement parce qu'il avait fait son devoir. Ses pensées, à présent libérées, prenaient leur envol. Il sentait que l'univers aussi était peut-être holographique. Chaque point englobait le tout. Même si un jour il ne restait plus qu'un atome, l'univers entier existerait encore. Il eut soudain la sensation de tout contenir en lui-même. C'était le même sentiment qui avait animé Ding Yi, 10 heures plus tôt, lorsqu'il avait fini de parcourir le chemin qui le conduisait à la gouttelette, à l'autre bout du système solaire. Chang Beiyei gagna le bout du couloir, il ouvrit la porte et entra dans le hall sphérique le plus vaste du vaisseau. 3 mois plus tôt, c'était ici qu'il était arrivé sur le sélection naturel. Comme cette fois-là, Une formation constituée d'officiers et de soldats flottait au milieu de l'espace central, mais ils étaient beaucoup plus nombreux que la dernière fois et formaient trois couches. Les 2000 membres de l'équipage du Sélection Naturelle étaient situés dans la couche centrale, et Chang Beiyei remarqua alors que c'était la seule couche réelle. Les deux autres n'étaient que des hologrammes. Après un examen plus minutieux, il vit que ces formations holographiques étaient composées de l'équipage des vaisseaux de poursuite. Devant ces trois formations se tenait une rangée de 5 officiers, Dongfang Yansu et les 4 commandants des autres vaisseaux. Tous, à l'exception de Dongfang Yansu, étaient des hologrammes, de toute évidence transmis depuis leurs vaisseaux respectifs. Lorsque Chang Beiyei pénétra dans le hall, plus de 5000 yeux se portèrent sur lui, mais ce n'étaient visiblement pas des regards adressés à un traître. Les commandants s'inclinèrent à tour de rôle. Espace bleu de la flotte asiatique. Enterprise de la flotte nord-américaine. Espace profond de la flotte asiatique. Loi ultime de la flotte européenne. Dongfang Yansu fut la dernière à s'incliner. Sélection naturelle de la flotte asiatique. Grand aîné, les 5 vaisseaux interstellaires que vous avez préservés pour l'humanité et qui constituent maintenant les derniers vaisseaux humains dans l'espace sont à vos ordres. Anéantis, tous anéantis, c'est un anéantissement mental collectif, soupira Shi Xiaoming en secouant la tête. Il venait de revenir de la ville souterraine. Toute la ville est hors de contrôle, c'est un véritable chaos. Tout le personnel administratif du quartier assistait à la réunion. Des hibernautes pour les 2/3, tandis que le reste était composé d'hommes modernes. On pouvait à présent distinguer clairement les 2 populations. Même si tous étaient profondément abattus, les hibernautes conservaient une certaine contenance malgré leur profonde affliction. Les hommes modernes, eux, montraient à des degrés divers des signes de crise de nerfs. Depuis le début de la réunion, plusieurs d'entre eux n'étaient pas parvenus à contrôler leurs émotions, et les mots de Shi Xiaoming avaient replongé les plus faibles dans un état de nervosité intense. Le haut responsable administratif du quartier pleurait à chaudes larmes, tout en se cachant le visage derrière les mains. Son chagrin se propagea à d'autres fonctionnaires. Le responsable en charge des questions d'éducation était pour sa part atteint d'un rire hystérique, tandis que quelques autres rugissaient de douleur en renversant leurs verres. « Silence !» dit Shi Xiang, sans élever la voix mais avec une autorité qui suffit à rétablir le calme. Le haut responsable administratif et ceux qui pleuraient avec lui s'efforcèrent de contenir leurs larmes. « De vrais gamins !» lâcha Heinz en secouant la tête. C'était en tant que représentant citoyen qu'il assistait à la réunion. Il était peut-être bien le seul à avoir tiré bénéfice de la destruction de la flotte unie, car la réalité était maintenant en phase avec son esprit. Il avait désormais recouvré son état normal. Avant cela, face à la victoire indiscutable qui semblait se dessiner, il avait été torturé par son poinçonnage mental au point de faillir devenir fou. Il avait été envoyé dans le grand hôpital de la ville, mais les psychologues de l'établissement s'étaient retrouvés démunis devant son cas. Ils avaient finalement soumis une idée insolite à Luoji et aux fonctionnaires du quartier. Inspiré par les histoires du « Siège de Berlin » d'Alphonse Daudet et du film de l'âge d'or « Goodbye Lénine », il leur avait conseillé de créer pour le malade un environnement fictionnel dans lequel l'humanité serait sur le point de perdre la guerre. De retour au quartier, c'est effectivement ce que l'on fit. Par chance, il n'était pas si difficile de fabriquer de toutes pièces un tel environnement à une époque où le développement des technologies de virtualité avait atteint son apogée. Heinz pouvait regarder chaque jour à son domicile les informations spécialement élaborées pour lui et illustrées par des images en 3 dimensions plus vraies que nature. C'est ainsi qu'il découvrit qu'une portion de la flotte trisolarienne avait accéléré son allure de navigation et était arrivée plus tôt dans le système solaire. Dans une guerre ayant éclaté dans la ceinture de Kuiper, les flottes humaines avaient subi un grave revers et l'ennemi tenait maintenant l'orbite de Neptune. Les flottes spatiales humaines n'avaient donc eu d'autre choix que de se réfugier en orbite de Jupiter, d'où elles tentaient tant bien que mal de résister. Le responsable en charge des questions de santé à qui on avait demandé de concevoir ce monde virtuel s'acquittait de sa tâche avec beaucoup d'enthousiasme. Il fut le premier à s'écrouler mentalement en apprenant la nouvelle de la défaite réelle de l'espèce humaine. Il avait pris un grand plaisir à répondre aux besoins psychologiques de Heinz et avait épuisé toute son imagination. Il avait eu beau tenter de dépeindre la défaite de la façon la plus désastreuse qui fût, la cruauté de la réalité avait de très loin dépassé tout ce qu'il avait pu imaginer. Lorsque les images de la destruction de la flotte étaient parvenues 3 heures plus tard sur Terre après avoir parcouru 20 unités astronomiques, les réactions de la foule furent celles d'une bande de gamins désespérés. Le monde devint un jardin d'enfants assiégé par les cauchemars. La crise de nerfs se propagea à toute vitesse et fut bientôt hors de contrôle. Dans le voisinage de Xichang, tous les fonctionnaires au rang plus élevé que le sien donnèrent leur démission, ou, devenus incontrôlables en raison de leur effondrement psychologique, furent démis de leurs fonctions par le gouvernement local. Bien que sa position ne fût pas très élevée, Xichang se vit confier le destin de la communauté des hibernautes en ces temps de crise. Heureusement, en comparaison avec la ville, la société hibernaute conservait un semblant de calme. « Je vous demande à tous de bien prendre la mesure de la situation, » dit Xichang. « Si l'environnement artificiel des villes souterraines connaît des problèmes, cela va devenir un enfer en bas, et les gens remonteront par vagues à la surface. On ne pourra pas continuer à vivre ici. C'est pourquoi il faut penser à émigrer. »«
Émigrer où ?» demanda quelqu'un.
« Dans un endroit moins peuplé, dans le nord-ouest par exemple. Bien sûr, on devra d'abord envoyer des gens en reconnaissance. » Personne ne saura dire maintenant ce que deviendra le monde. Il y aura peut-être un nouveau grand ravin. Il faut se préparer à dépendre exclusivement de l'agriculture.
« La gouttelette va-t-elle attaquer la terre ?» demanda quelqu'un.
« Est-ce bien la peine de se tracasser pour ça ?» dit Xichang en secouant la tête. « De toute façon, rien ni personne n'est capable de l'arrêter. En attendant le jour présumé où elle transpercera la terre, il faut bien continuer à vivre, non ?»
Il a raison. C'est une préoccupation inutile.
Je suis le mieux placé pour en parler, ajouta Luoji qui avait jusqu'ici gardé le silence.
Les 7 vaisseaux rescapés de la flotte spatiale s'éloignèrent du système solaire, séparés en 2 groupes. L'un composé du sélection naturelle et des 4 vaisseaux de poursuite, l'autre des 2 vaisseaux ayant réussi à échapper à l'attaque de la gouttelette. Le Quantum et l'Âge de Bronze. Ces 2 petites escadres se trouvaient à présent aux 2 extrémités du système solaire, séparées par le Soleil, continuant chacune sa route vers l'espace immense, s'éloignant l'une de l'autre à mesure de leur avancée. À bord du Sélection Naturelle, quand il eut fini d'entendre le récit de l'anéantissement de la flotte unie, les expressions du visage de Chang Beiyei restèrent les mêmes. Son regard était toujours aussi calme que l'eau d'un lac. Il se contenta d'abord de prononcer une simple phrase. « Avoir imaginé une formation aussi dense est une erreur impardonnable. Tout le reste était prévisible. »«
Camarades !» dit ensuite Chang Beiyei, dont le regard balaya les 5 officiers et les 3 couches de formation du hall. J'utiliserai désormais cette appellation ancienne qui signifie qu'à compter de ce jour, nous devrons tous partager les mêmes aspirations. Chacun doit prendre la mesure de la réalité. Nous devons aussi regarder le futur en face. Camarades, nous ne rentrerons pas.
Et en effet, ils ne pouvaient plus rentrer. La gouttelette qui avait anéanti les flottes humaines était encore dans le système solaire, et 9 autres débarqueraient dans 3 ans. Pour cette escadre, ce qui était autrefois son territoire était devenu un terrain miné. Il n'y avait d'ailleurs plus aucun sens à rentrer, car le jour dernier du monde terrestre arriverait bientôt. Des informations qu'il recevait, il pouvait même prédire que la civilisation humaine s'écroulerait avant même que les vaisseaux trisolariens aient atteint le système solaire. Ces 5 vaisseaux devaient donc assumer la responsabilité de perpétuer la civilisation. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de voler en avant, de voler loin. Ce vaisseau serait leur éternel foyer et l'espace, leur ultime destination. Ensemble, Les 5500 passagers étaient comme des enfants à qui on avait coupé le cordon ombilical. Ils venaient d'être jetés cruellement dans les abysses du cosmos. Comme des enfants, ils ne pouvaient rien faire d'autre que pleurer. Mais le regard tranquille de Chang Beiyei agissait comme un puissant champ de force qui maintenait l'équilibre des troupes et leur permettait de sauvegarder leur dignité militaire. Ce dont avaient le plus besoin ces enfants lâchés dans cette nuit sans fin, c'était d'un père. Et maintenant, comme Dong Feng Yonsu avant eux, ils ressentaient chez ce militaire venu d'une époque révolue une puissance paternelle. Chang Beiyei poursuivit. Nous serons à jamais une partie de l'humanité, mais nous sommes déjà devenus une société autonome. Nous devons nous affranchir de notre dépendance spirituelle au monde terrestre. À présent, il nous faut choisir un nouveau nom pour notre nouveau monde. Nous venons de la Terre et nous en serons peut-être les seuls héritiers. Appelons-nous la Terre des vaisseaux, dit Dong Feng Yonsu. Très bien, dit Chang Beiyei en jetant un regard approbateur à Dong Feng Yonsu. Puis il se tourna à nouveau vers les troupes. À compter de ce jour, chacun d'entre nous est un citoyen de la Terre des vaisseaux. Nous venons peut-être d'assister à la seconde naissance de la civilisation humaine. Nous avons beaucoup à faire. Que chacun retourne à son poste. Les deux formations holographiques disparurent et celle du sélection naturelle commença à se disperser. Les projections holographiques des officiers, elles, étaient encore là. Grand ancien, nos quatre vaisseaux ne devraient-ils pas se rapprocher ? Demanda le commandant de l'espace profond. Chang Beiyei secoua résolument la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Conservez votre distance actuelle de 200 000 km avec le sélection naturelle. Se rapprocher davantage demanderait une consommation supplémentaire de combustible. Or, l'énergie est le fondement de notre survie. Il ne nous en reste déjà pas beaucoup et il nous faut donc économiser tout ce qu'il est possible d'économiser. Nous sommes les seuls humains dans cette portion de l'espace. Et je peux comprendre votre désir de vous rassembler, mais sachez que 200 000 kilomètres constituent déjà une distance proche. À compter d'aujourd'hui, nous devons penser à long terme. Oui, nous devons penser à long terme, répéta à voix basse Dong Feng Yonsu, les deux yeux rivés sur l'horizon, comme si elle regardait les longues années à venir. Il faut rapidement réunir une assemblée citoyenne, continua Chang Beiyei. Il nous faut répartir les tâches au sein de la Terre des vaisseaux, puis nous ferons entrer un grand nombre de passagers en hibernation pour réduire au maximum le fonctionnement des écosystèmes autorégénératifs. Quoi qu'il arrive désormais, l'histoire de la Terre des vaisseaux a commencé.
Les yeux de son père étaient réapparus dans l'obscurité, comme des rayons venus des franges de l'univers, transperçant tout. Chang Beiyei sentit son regard et murmura au fond de lui. « Non, père, vous ne pouvez pas vous reposer. Ce n'est pas terminé. Tout recommence. » Le jour suivant, la Terre des vaisseaux comptait toujours en jours terrestres, fut organisée la première grande assemblée citoyenne, qui eut lieu simultanément dans un même espace où furent projetées les images holographiques des 5 équipages. Près de 3000 citoyens y assistèrent. Les autres, retenus à leur poste, y prirent part par le biais du réseau interne. L'assemblée commença par une problématique urgente, celle de la destination de navigation de la Terre des vaisseaux. Il fut décidé à l'unanimité de conserver la même direction, celle qu'avait à l'origine sélectionnée Chang Beiyei lors de son détournement du sélection naturelle, celle de la constellation du Cygne. Plus précisément, sa destination était l'étoile NH558J2, un des systèmes planétaires les plus proches du système solaire. Le système comportait deux planètes, des géantes gazeuses similaires à Jupiter. Elles n'étaient pas adaptées pour la survie humaine, mais on pourrait y faire le plein de combustible de fusion nucléaire. Avec le recul, on comprenait que le choix de cette destination avait été mûrement réfléchi, car dans une autre direction, seulement une année-lumière et demie plus loin que NH558J2, se trouvait une autre planète qui présentait, selon les observations,
un environnement naturel similaire à celui de la Terre. Mais son système ne comportait qu'une seule planète, et si jamais celle-ci s'avérait inhabitable, les conditions d'un monde habitable étaient de loin plus complexes que ce qu'il était possible d'observer à une distance de plusieurs années-lumière, la Terre des vaisseaux perdrait toute chance de remplir ses réservoirs. Après avoir atteint NH558J2, les vaisseaux pourraient au moins faire le plein de combustible et repartir à une vitesse plus rapide vers leur prochaine destination. NH558J2 était situé à 18 années-lumière du système solaire. Au regard de la vitesse actuelle et en prenant en considération toutes sortes de facteurs indéterminés au cours de leur voyage, les vaisseaux seraient en mesure de l'atteindre dans 2000 ans. 2000 ans. Ce nombre froid donnait encore une fois à voir une image claire du présent et de l'avenir. Même en prenant en compte le facteur de l'hibernation, la plupart des citoyens présents de la Terre des vaisseaux ne seraient pas vivants quand elle atteindrait enfin sa cible. Leur vie ne serait qu'un petit segment d'une traversée longue de 20 siècles. Et pour ce qui était des générations qui parviendraient à destination, NH558J2 ne serait qu'une zone de transit. Personne ne savait quelle serait la destination suivante, et encore moins quand la Terre des vaisseaux trouverait un foyer hospitalier où survivre. En réalité, Chang Beiyei avait fait preuve d'une exceptionnelle rationalité. Il savait que si la Terre était propice à la vie humaine, ce n'était pas une coïncidence, encore moins un effet de quelque principe anthropique, mais davantage le résultat d'une longue interaction entre sa biosphère et son environnement, un résultat qui ne pourrait très probablement jamais être reproduit sur d'autres planètes dans des systèmes éloignés. Le choix de faire cap vers NH558J2 signifiait autre chose. Un monde habitable ne serait peut-être jamais trouvable. Et la nouvelle civilisation humaine serait peut-être éternellement vouée à naviguer dans l'espace. Mais Chang Beiyei n'avait pas exprimé aussi explicitement sa pensée. Il faudrait sans doute attendre la prochaine génération pour que le principe d'une civilisation des vaisseaux soit vraiment accepté. Cette génération-ci vivrait dans l'espoir de trouver un jour une planète semblable à la Terre. L'Assemblée citoyenne fut aussi l'occasion de discuter du statut politique de la Terre des vaisseaux. On décida que les 5 vaisseaux appartiendraient pour toujours au monde humain, mais que, dans la situation actuelle, ils ne pouvaient plus être subordonnés à la Terre ou aux 3 flottes spatiales. Ils formeraient désormais une nation indépendante. Cette résolution fut transmise au système solaire. L'ONU et le comité conjoint de la flotte solaire restèrent longtemps silencieux avant de répondre. Sans prendre position, ils ne leur envoyèrent finalement qu'une bénédiction tacite. Par conséquent, 3 types de statuts internationaux existaient maintenant dans le monde humain. Les vieilles nationalités terrestres, les nationalités des flottes spatiales de la nouvelle ère et celles des vaisseaux voguant vers les profondeurs de l'univers. Cette dernière nation n'était composée que de 5000 hommes, mais c'était elle qui portait tous les espoirs de la civilisation. Lors de la 2e Assemblée citoyenne, on commença par discuter du problème de la structure de commandement de la Terre des vaisseaux. Chang Beiyei prit la parole dès le début de la réunion. « Je pense que cet ordre du jour est un peu prématuré. Nous devrions d'abord décider quel type de société nous souhaitons mettre en place avant de réfléchir à la manière dont elle devra être dirigée. Nous devons donc avant tout rédiger une constitution », compléta donc Fang Yuansu. Les discussions se développèrent ainsi dans cette direction. La tendance principale qui se dégageait était la suivante. La Terre des vaisseaux était un écosystème fragile dans un environnement spatial hostile. Pour survivre dans ces conditions, il fallait donc établir une société disciplinée qui permette de garantir une unité d'action. Quelqu'un proposa de conserver le système militaire actuel, et cette idée fut approuvée par le plus grand nombre. Une société totalitaire, donc ? Lâcha Chang Beiyei. Grand ancien, nous pourrions trouver un mot moins fort. Après tout, nous sommes tous des militaires, dit le commandant de l'espace bleu. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, continua Chang Beiyei en secouant résolument la tête. Rester vivant ne garantit pas de survivre. Le développement est la meilleure assurance de survie.
Pendant notre voyage, nous devrons développer nos propres sciences et nos propres technologies pour élargir notre monde. L'histoire du Moyen-Âge et du Grand Ravin a prouvé que les régimes totalitaires étaient le plus grand obstacle au progrès humain. La Terre des vaisseaux a besoin de nouvelles idées et d'innovations créatives. Cela ne sera possible que si nous bâtissons une société respectueuse de la liberté et des individus. Le Grand Ancien envisage-t-il donc de bâtir une société telle qu'il en existe sur Terre ? Notre Terre des vaisseaux présente un avantage, notre nombre, dit un sous-officier.
Oui, reprit donc Fang Yonsu en hochant la tête à l'adresse de celui qui venait de prendre la parole. La population est réduite sur la Terre des vaisseaux et nos systèmes d'information sont très performants. Pour toute prise de décision, il sera possible de les utiliser pour récolter les avis et les votes de tous les citoyens. Nous pourrions fonder la première société réellement démocratique de toute l'histoire humaine.
Je ne crois pas non plus que ce soit souhaitable, fit Chang Beiyei en secouant encore la tête. Comme certains des citoyens l'ont exprimé tout à l'heure, la Terre des vaisseaux évolue dans un environnement hostile. Notre monde peut se retrouver à tout moment face à la menace d'une destruction. L'expérience historique de la crise trisolarienne a montré que face à ce genre de catastrophe, surtout lorsque notre monde nécessitera de faire des sacrifices pour préserver son existence en tant que totalité, le genre de société humaniste à laquelle vous aspirez se révélera extrêmement fragile.
Tous les participants s'observèrent. Leurs yeux posaient la même question. Alors, que faire ?
Chang Beiyei dit en souriant. Je pense de façon trop simpliste. C'est une question qui n'a jamais obtenu de réponse dans toute l'histoire de l'humanité. Comment pourrait-elle être résolue en une seule réunion ? Je crois qu'il nous faudra traverser de longues périodes d'expérimentation et de tâtonnement avant de savoir quel sera le modèle de société idéale pour la Terre des vaisseaux. Chaque citoyen pourra en discuter librement après la réunion. Veuillez me pardonner d'avoir perturbé l'ordre du jour. Revenons plutôt à ce qui était prévu.
Dongfeng Yansu n'avait jamais vu un tel sourire chez Chang Beiyei. Il ne souriait que très rarement, et quand il le faisait, c'était de confiance ou de bienveillance. Mais à l'instant, il avait exprimé pour la première fois un remords confus. Même si cette courte interruption était parfaitement excusable, Chang Beiyei était un homme réfléchi et il ne lui était jamais arrivé de se dédire après avoir exprimé son opinion. Donc Fang Yansu y vit une distraction dans son esprit. Il ne prit par ailleurs aucune note de toute la réunion, alors qu'il le faisait consciencieusement d'ordinaire. Il était le seul homme à bord à utiliser un crayon et du papier, ce qui était devenu son signe distinctif. À quoi occupait-il maintenant ses pensées ? Il fut rapidement à nouveau question du choix des instances dirigeantes. De l'avis général des citoyens, les conditions n'étaient pas encore tout à fait réunies pour organiser une élection. On conserverait donc temporairement inchangé le système de commandement militaire sur chaque vaisseau. Les commandants resteraient maîtres de leurs appareils et formeraient ensemble un comité d'état-major qui aurait la charge de prendre les grandes décisions communes quand ce serait nécessaire. On poussa Chang Beiyei à en devenir le président. En d'autres termes, on lui offrait l'autorité suprême sur la Terre des vaisseaux. Cette décision fut soumise à un référendum citoyen qui obtint 100% de votes favorables. Mais Chang Beiyei refusa ce poste.
Grand ancien, c'est votre responsabilité ? Insista le commandant de l'espace profond.
Sur la Terre des vaisseaux, vous êtes le seul à posséder le prestige suffisant pour prendre la tête de toutes les flottes, dit donc Fang Yonsu.
Je crois avoir déjà accompli tout ce qui était de ma responsabilité. Je suis maintenant fatigué et je suis arrivé en âge de prendre ma retraite, répondit sobrement Chang Beiyei. Quand la réunion se termina, Chang Beiyei demanda à Dongfeng Yonsu de l'attendre. Tous les autres étaient déjà partis.
Dongfeng, dit-il, je voudrais reprendre ma position de commandant exécutif du Sélection Naturelle.
Commandant exécutif ? S'étonna Dongfeng Yonsu en le regardant.
Oui, transférez-moi les pouvoirs correspondants.
Grand ancien, je pourrais tout simplement vous laisser prendre ma place. Je suis sincère. Et le comité d'état-major, de même que l'ensemble des citoyens, n'y verrait aucune objection.
Chang Beiyei sourit en secouant la tête.
Non, vous êtes toujours commandante et je vous laisse toutes les responsabilités de commandement.
Faites-moi confiance, je ne m'ingérerai pas dans votre travail.
Alors pourquoi voulez-vous détenir les pouvoirs de commandant exécutif? Ce poste a-t-il encore un sens?
C'est simplement parce que j'aime bien ce vaisseau. C'était notre rêve il y a 2 siècles. Est-ce que vous savez ce que j'ai dû faire pour qu'un vaisseau de ce genre puisse un jour être construit?
En voyant son regard, elle réalisa que la dureté de pierre de son visage s'était évanouie, révélant une impression de vide, de fatigue et de profonde tristesse. Il avait l'air de ne plus être le même. Ce n'était plus ce militaire puissant, calme et froid, aux pensées mesurées et aux actions audacieuses, mais un homme au dos courbé par le poids du temps. En le regardant, Dongfang Yansu éprouva une sollicitude et une compassion qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant.
« Grand ancien, vous ne devriez pas repenser à cela. Les historiens ont établi un jugement positif de vos actions d'il y a 2 siècles. Orienter les recherches vers les propulseurs radiatifs sans médium a constitué un premier pas essentiel dans la direction de la technologie des vaisseaux spatiaux. Peut-être qu'à votre époque, c'était le seul choix possible. Un peu comme lorsque vous avez détourné le sélection naturelle. Et puis, d'un point de vue judiciaire, il y a bien longtemps que le délai de prescription est passé.
Mais je ne pourrai jamais me décharger de la croix que je porte sur mon dos. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour cette raison que j'éprouve des sentiments pour ce vaisseau, avec peut-être plus de sensibilité que vous. C'est comme si j'étais une partie de lui. Je ne peux pas le quitter. Et puis, il faudra bien que je m'occupe à l'avenir. Si vous me donnez quelque chose à faire, je me sentirai mieux. »
Quand il eut fini de parler, il se tourna et partit. Sa silhouette fatiguée s'éloigna en planant jusqu'à ne devenir plus qu'un petit point noir au milieu de l'immense espace sphérique. Dongfang Yansu le regarda s'évanouir dans cette blancheur immaculée. Un sentiment de solitude inédit l'assaillit depuis les 4 coins de la cabine et finit par l'engloutir.
Durant les assemblées citoyennes qui suivirent, les occupants de la Terre des vaisseaux s'investirent passionnément dans le projet de création de leur nouveau monde. Ils débattaient avec entrain de sa nouvelle constitution et de sa nouvelle structure sociale, ébauchant toutes sortes de lois, planifiant la première élection. Des échanges abondants avaient aussi lieu entre des officiers de grades différents et des soldats, ainsi qu'entre les différents vaisseaux. Les passagers présentaient leurs perspectives d'avenir, espérant unanimement que cette terre des vaisseaux deviendrait le noyau d'une boule de neige pour la civilisation du futur, et ne cesserait de s'agrandir de système stellaire en système stellaire. De plus en plus nombreux étaient ceux qui voyaient dans cette terre des vaisseaux un deuxième jardin d'Éden, et se préparaient à vivre la deuxième genèse de la civilisation humaine. Mais cet engouement ne dura pas longtemps. Précisément car la terre des vaisseaux était devenue un jardin d'Éden. Le lieutenant-colonel Lancy était le psychologue en chef du sélection naturelle. Il était à la tête du 2e bureau du service civil, une entité composée d'experts psychologues dont la tâche était de veiller à la santé mentale de l'équipage pendant les longs voyages interstellaires et en période de guerre. Depuis que la Terre des vaisseaux avait commencé à entreprendre sa longue traversée sans retour, le lieutenant-colonel Lancy et son équipe étaient sur leur garde, tels des soldats prêts à affronter à tout moment un puissant ennemi. Les exercices qu'ils avaient pu mener dans le passé les avaient préparés à faire face à toute une gamme de crises psychologiques possibles. Tous s'accordaient à dire que le plus grand ennemi qui les guettait était le problème N. N. pour nostalgie. Il s'agissait, après tout, du premier voyage sans retour de toute l'histoire de l'humanité. Le problème N présentait le risque de provoquer une grave crise psychologique collective. Lancy confia à son équipe le soin de prendre toutes les précautions possibles, y compris en établissant des canaux d'échange dédiés à la communication avec la Terre et les 3 flottes spatiales. Tous les membres de l'équipage pouvaient ainsi garder un contact constant avec leurs familles et leurs amis et regarder les informations et les autres programmes télévisés des 2 entités.
Même si la Terre des vaisseaux se trouvait en ce moment même à une distance de 70 unités astronomiques du système solaire et que les signaux terrestres lui arrivaient avec un décalage de 9 heures, la qualité des communications restait excellente. En plus de mener des suivis psychologiques et de traiter les patients chez qui des signes du problème N avaient été détectés, les officiers psychologues du deuxième bureau du service civil mirent aussi en place une disposition radicale en cas de crise psychologique de masse. Mettre en quarantaine les individus dont on avait perdu le contrôle en les faisant entrer en hibernation. Les événements qui suivirent montrèrent que toutes ces angoisses étaient superflues. Même si le problème N était largement répandu au sein de la Terre des vaisseaux, il était loin d'être hors de contrôle et n'atteignait même pas le degré habituel des navigations moins longues de jadis. L'ANSI fut d'abord confus devant le phénomène, mais il en trouva vite la raison. Après l'anéantissement des forces spatiales humaines, la Terre avait perdu tout espoir. Même s'il restait encore 2 siècles avant la fin du monde, selon les estimations les plus optimistes, les nouvelles qu'on recevait de Terre laissaient croire que le monde, plongé dans le chaos au lendemain du choc de cette monumentale défaite, empestait déjà l'odeur de la mort. Pour les habitants de la Terre des vaisseaux, le système solaire n'offrait plus aucun espoir et la nostalgie du pays natal était, de fait, limitée. Mais un ennemi finit tout de même par surgir, encore plus insidieux que le problème N. Quand l'ANSI et son équipe le découvrirent, ils étaient déjà pris au piège. De par son expérience des voyages spatiaux, l'ANSI savait que le problème N apparaissait en premier lieu chez les soldats et les officiers subalternes, car, par comparaison avec les officiers de grade supérieur, leur travail demandait moins de concentration et ils étaient moins bien préparés mentalement à cette nostalgie. C'est pourquoi le deuxième bureau du service civil porta dans un premier temps son attention sur cette population. Mais cette fois-ci, l'ombre tomba d'abord sur les officiers les plus gradés. L'ANSI remarqua un phénomène étrange. L'élection des instances dirigeantes de la Terre des vaisseaux allait bientôt commencer. Celle-ci avait lieu au suffrage universel direct et plusieurs officiers allaient donc passer du statut de militaire gradé à celui de représentant politique, ce qui signifiait que les cartes seraient rebattues. Nombre d'entre eux seraient remplacés par des camarades, peu ou pas gradés. L'ANSI découvrit pourtant avec étonnement qu'aucun des responsables du sélection naturelle n'accordait un grand intérêt à cette élection qui déterminerait pourtant leur avenir. Il ne vit par exemple aucun officier supérieur s'engager dans une campagne politique, et, quand il avait l'occasion d'aborder le sujet, aucun d'entre eux ne se montrait intéressé. Il ne put s'empêcher de repenser à l'attitude distraite de Chang Beiyei au cours de la deuxième assemblée citoyenne. Parmi les membres ayant un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel commencèrent à apparaître des symptômes de déséquilibre psychologique. La majorité d'entre eux devinrent de plus en plus introvertis, passant beaucoup de temps seuls et plongés dans leurs réflexions, évitant les conversations et toute forme d'interaction sociale. Leur prise de parole lors de réunions se faisait de plus en plus rare et beaucoup adoptaient même peu à peu un silence absolu. L'ANSI constata qu'une lumière s'était éteinte dans leurs yeux et que leurs expressions étaient devenues lugubres. Pire encore, ils n'osaient plus croiser le regard de leurs semblables de peur de trahir les ténèbres dont ils étaient habités. Quand ils croisaient malencontreusement un regard, ils détournaient immédiatement leur ligne de vision comme sous l'effet d'une décharge électrique. Ces symptômes étaient les plus sévères chez les individus au grade le plus élevé. Mais on pouvait voir cette tendance se propager aux membres des grades inférieurs. Il était trop tard pour effectuer des consultations psychologiques volontaires, car ils refusaient catégoriquement de se confier aux officiers psychologues. L'équipe du lieutenant-colonel L'ANSI dut donc faire appel à son autorité pour procéder à des consultations forcées. Mais les patients continuaient à se murer dans le mutisme. L'ANSI prit la décision d'en référer directement au comité d'état-major et il alla trouver Dongfang Nianzhu. Chang Beiyei, qui disposait de l'autorité et du prestige les plus élevés à bord du sélection naturelle et sur toute la Terre des vaisseaux, les avait abandonnés.
Il s'était retiré de la course à l'élection et voulait qu'on le considère comme un citoyen ordinaire. Il ne faisait qu'assumer ses fonctions de commandant exécutif, ce qui consistait à transmettre les ordres de Dongfang Yansu au système de commandement. Le reste du temps, il arpentait tous les recoins du sélection naturelle, glanant auprès des officiers et des soldats des informations plus détaillées sur le vaisseau et montrant une affection de tous les instants pour cette arche spatiale. En dehors de cela, il apparaissait calme et posé, semblant indifférent à la menace psychologique qui planait tel un spectre au-dessus du vaisseau. C'était certainement lié au fait qu'il avait choisi de garder ses distances, mais l'Ansi savait qu'il existait une autre raison. Les hommes de l'ancien temps n'étaient pas aussi sensibles que les hommes modernes et, dans de telles circonstances, l'apathie était le meilleur des boucliers. Comme beaucoup d'autres hommes à bord du sélection naturelle, l'Ansi était fasciné par la beauté de Dongfang Yansu. Quand il la vit à son tour si lugubre, si faible et si impuissante, il se sentit submergé de douleur. « Commandante, ne pourriez-vous pas me donner quelques indices sur ce qui est en train de se passer ?»«
Lieutenant-colonel, ce serait plutôt à vous de nous en donner. » »«
Est-ce que vous voulez dire que vous ne savez absolument rien de votre état ?»
Une tristesse infinie surgit alors dans les pupilles sombres de Dongfang Yansu.
« Je sais simplement que nous sommes les premiers humains à entrer dans l'espace. »«
Que dites-vous ?»«
C'est la première fois que les humains entrent réellement dans l'espace. » »«
Oh, je comprends ce que vous voulez dire. » Autrefois, peu importait la distance qu'ils parcouraient, un vaisseau spatial n'était en fin de compte qu'un cerf-volant relié à la Terre par un fil spirituel. Mais maintenant, ce fil a été brisé.
Oui. Et ce qui change tout, c'est que le fil ne s'est pas brisé parce qu'une main l'a lâché, mais parce que la main a disparu. La Terre va à sa perte. Dans notre esprit, elle est déjà morte. Nos cinq vaisseaux ne sont plus reliés à aucun monde. Autour de nous, il ne reste plus rien que le gouffre de l'espace.
En effet, jamais l'humanité n'avait eu à faire face à un environnement aux répercussions psychologiques aussi dévastatrices.
Oui. Et au sein de cet environnement, l'esprit humain va être radicalement bouleversé. Les humains vont devenir...
Dongfang Yansu s'arrêta soudain. Le chagrin avait disparu de ses yeux, il ne restait plus qu'une couleur grise comme un ciel couvert de nuages après la pluie.
Vous voulez dire que dans ce genre d'environnement, les humains vont devenir des nouveaux humains ?
Des nouveaux humains ? Non, lieutenant-colonel. Les humains vont devenir des non-humains.
Le dernier mot prononcé par la commandante fit passer un frisson dans le cœur de l'Ansi. Il releva la tête pour la regarder, et elle ne détourna pas son regard, mais dans le vide de ses yeux, l'Ansi ne vit que la fenêtre de son âme fermée sur le monde.
Ce que je veux dire, c'est que nous ne pourrons plus nous définir selon la conception traditionnelle de l'humanité. Lieutenant-colonel, c'est tout ce que je peux vous dire. Essayez de faire du mieux que vous pourrez, et puis...
Les mots qu'elle prononça ensuite donnèrent l'impression d'avoir été murmurés dans son sommeil.
« Ce sera bientôt votre tour. »
La situation continua à se détériorer. Le lendemain de la conversation que l'Ansi avait eue avec Dongfang Yansu, un événement dramatique eut lieu sur le sélection naturelle. Un lieutenant-colonel travaillant en lien avec le système de navigation ouvrit le feu sur l'officier avec qui il partageait la cabine. Selon les souvenirs de la victime, l'agresseur s'était soudain réveillé en pleine nuit et, découvrant que lui aussi était réveillé, il l'avait accusé de l'espionner et d'écouter les paroles qu'il prononçait dans son sommeil. Au cours de leur dispute, il avait perdu le contrôle de lui-même et avait ouvert le feu. L'Ansi était aussitôt allé rendre visite au lieutenant-colonel qui avait été arrêté.
« Qu'aviez-vous peur qu'il entende ?» demanda l'Ansi.
« Vous voulez dire qu'il a vraiment entendu ?»
demanda l'assaillant, le visage saisi d'effroi.
L'Ansi secoua la tête. « Il nous a soutenu que vous n'aviez absolument rien dit pendant votre sommeil.
Et même si j'avais dit quelque chose, vous n'allez quand même pas croire ce qu'on dit dans nos rêves ?
Ce n'est pas ce que je pense. Je ne vais quand même pas aller en enfer pour des paroles prononcées dans mon sommeil. »
L'Annecy se révéla incapable de lui en faire dire plus sur le contenu des paroles qu'il avait imaginé proférer durant son sommeil. Il lui demanda toutefois s'il acceptait d'être traité par hypnose. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme perde de nouveau le contrôle de lui-même et lui saute au cou. Des gardes étaient aussitôt entrés dans la cellule et les avaient séparés. Un officier de garde qui avait entendu leur conversation confia à l'Annecy. Le lieutenant-colonel ne parlait plus de traitement sous hypnose, ou bien le deuxième bureau du service civil risque de devenir l'entité la plus détestée sur le vaisseau, et vous ne vivrez pas longtemps. L'Annecy n'eut alors d'autre choix que de contacter le colonel Scott, psychologue à bord de l'Enterprise. Ce dernier était aussi le pasteur du vaisseau, un poste qui n'existait pas sur les vaisseaux de la flotte asiatique. L'Enterprise, comme les autres vaisseaux autrefois lancés à la poursuite du sélection naturelle, se trouvait toujours à une distance de 200 000 kilomètres. « Pourquoi est-ce si sombre chez vous ?» demanda l'Annecy en voyant l'image qui lui parvenait de l'Enterprise. La cabine sphérique dans laquelle se trouvait Scott n'était éclairée que par une faible lueur jaune, tandis que sur les cloisons de la cabine était projetée l'image du ciel étoilé de l'extérieur. Scott paraissait baigné dans un univers envahi par la brume. Son visage était dissimulé dans la pénombre, mais l'Annecy put tout de même noter qu'il avait détourné son regard du sien. « Les ténèbres tombent sur le jardin d'Éden. Elles auront bientôt tout englouti. » lâcha Scott d'une voix fatiguée. Si l'Annecy était allé consulter Scott, c'était parce qu'il pensait qu'en tant que pasteur de l'Enterprise, des membres du vaisseau étaient probablement allés se confesser auprès de lui. Il avait pensé que celui-ci lui fournirait quelques indices, mais en l'entendant prononcer ces paroles et en voyant l'ombre se dessiner dans le regard du colonel, l'Annecy savait qu'il n'obtiendrait rien. Alors il réprima la question qu'il voulait poser à l'origine et en choisit une autre qui le surprit lui-même. « Est-ce que ce qui s'est passé dans le premier jardin d'Éden se répétera dans le deuxième ?»« Je l'ignore, mais en tout cas, le serpent est apparu, il rampe dans l'âme des occupants du jardin. » « Vous voulez dire que vous avez goûté au fruit de la connaissance ?» Scott hocha lentement la tête, puis il resta la tête baissée comme s'il essayait de cacher ce regard qui risquait de le trahir. « En quelque sorte. Qui sera renvoyé du jardin ?» La voix de l'Annecy tremblait, ses paumes suintaient de transpiration. « Beaucoup d'entre nous, mais contrairement à la dernière fois, certains resteront peut-être. » Qui ? Qui restera ? Scott poussa un long soupir. Lieutenant-colonel Lann, j'en ai dit assez. Pourquoi ne pas chercher vous-même le fruit de la connaissance ? Chacun d'entre nous doit franchir le pas après tout, n'est-ce pas ? Où dois-je chercher ? Abandonnez votre travail. Réfléchissez davantage. Ressentez davantage. Et vous trouverez. Après sa discussion avec le colonel Scott, l'Annecy, déboussolé, cessa toutes ses activités. Et comme le lui avait conseillé le colonel, il se mit à réfléchir. Et cela arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Le serpent du jardin d'Éden, froid à en glacer les eaux, s'insinua à son tour dans sa conscience. Il trouva le fruit de la connaissance et le mangea. Le dernier rayon de soleil de son âme s'éteignit et tout sombra dans les ténèbres. Deux jours plus tard, le commandant du Loi Ultime se donna la mort. On le retrouva sur le pont à la poupe du vaisseau. Le pont était enveloppé par un dôme transparent, ce qui donnait l'impression qu'il était à l'air libre. Il faisait face à la direction du système solaire où le soleil n'était déjà plus qu'une étoile jaune un peu plus brillante que les autres. Dans cette direction se trouvait la partie extérieure du bras spiral de la galaxie, où les étoiles étaient éparses et où l'espace exhibait sa profondeur et sa désolation. Ni le regard ni l'âme n'avaient plus rien sur quoi s'appuyer.
« Il fait sombre. Putain qu'il fait sombre !»
avait-il murmuré. Puis il s'était tiré une balle dans la tête.